Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capu Service.
Au terme de tout cycle universitaire, les étudiants sont appelés à présenter un travail académique. Ce travail scientifique prouve leur assimilation personnelle des matières apprises. Par ignorance des principes, beaucoup d'étudiants travaillent par imitation. Certains copient leurs prédécesseurs et vont juste à plagier leurs erreurs. Quels sont les principes à respecter dans la rédaction d'un travail de fin de cycle? Nous en parlons tout à l'heure avec Célestin Dimanja, professeur à l'Université catholique du Congo. Célestin Dimanja, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous parlons aujourd'hui de l'élaboration d'un travail de fin de cycle. Quels sont les principes de base?
Les principes de base, c'est qu'il faut disposer dès le départ d'un sujet sur lequel on va travailler.
Mmh.
Comment choisir ce sujet? En principe, c'est l'étudiant qui est responsable du choix.
Oui.
Mais dans certaines situations, ça peut être l'enseignant, le maître, qui suggère, qui donne des pistes et qui peut même aller jusqu'à imposer de sujets de recherche.
Et le choix du sujet se fait par rapport à quoi?
Le choix du sujet se fait d'abord par rapport à l'étudiant lui-même, hein. Par rapport à ses goûts, l'étudiant ne peut choisir qu'un sujet qui peut le motiver, qui lui donne l'envie de dire quelque chose, d'apporter quelque chose de neuf à la recherche scientifique, à la réflexion scientifique. Et pour cela, il doit, avec l'aide de son promoteur pressenti ou déjà choisi, déterminer quelle est la littérature qui a été produite avant lui, de manière à choisir, là je parle de la recherche scientifique au sens fort du terme, hein.
Oui.
Je ne parle pas uniquement de l'initiation à la pratique de telle ou telle méthode, de telle ou telle discipline scientifique, mais au sens fort, la recherche scientifique a comme première visée la production des connaissances. Généralement de nouvelles connaissances.
Mmh.
Et cette nouveauté se mesure par rapport à ce qui a été fait jusque-là avant que l'auteur de la recherche ne puisse se lancer dans le bain.
Oui, alors après l'étape, l'histoire du sujet, quelle est l'étape suivante?
L'étape suivante, c'est de réunir précisément la documentation sur le sujet choisi. Il faut vérifier, hein. Quels sont les auteurs qui l'ont déjà abordé, dans quel sens ils l'ont abordé, quelles sont les techniques et les méthodes qu'ils ont appliquées. C'est par rapport à ces techniques et à ces méthodes que l'on peut déjà essayer de dessiner son originalité.
Mmh.
Ah. Et cela ne peut se faire qu'avec l'aide d'un encadreur reconnu. Reconnu par l'institution au sein de laquelle vous étudiez.
Mais souvent, les étudiants, on dit qu'il faut choisir un directeur et un co-directeur ou des lecteurs, deux et trois, je ne sais pas comment ça s'organise.
En principe, hein, si je parle de l'expérience ou des expériences auxquelles j'ai participé, quand vous proposez le sujet, on vous demande de proposer à la faculté ou à la section quel est celui parmi les membres du corps académique, du corps de la recherche scientifique, que vous semblez, que vous trouvez bien à même de vous accompagner dans cette recherche. Et ce choix-là, le choix du sujet, tout comme celui du promoteur, ce sont des choix qui doivent être approuvés par la faculté ou par la section. Approuver, ça ne veut pas dire que l'université va vous suivre en tout point de vue.
Oui.
Ça signifie qu'on va vérifier si la personne en question a les compétences nécessaires, si le sujet rentre dans ses compétences, dans ce domaine de recherche, parce que quelqu'un qui ne s'est jamais intéressé à un sujet, vous pouvez présumer qu'il ne vous sera pas d'une très grande utilité dans la production, dans la recherche, dans la manière de réunir les matériaux et même dans la façon de raisonner. Hein, parce que s'il n'y trouve lui-même aucun intérêt, lui-même le sujet lui est complètement étranger, ça ne sert vraiment à rien en ce moment-là.
Oui. Alors, professeur Célestin, quelles sont les parties essentielles d'un travail de fin de cycle?
Les parties essentielles, d'abord, c'est le corps du travail. Hein? Le corps du travail peut comporter 2-3 chapitres, ça dépend de la nature, de l'ampleur de la recherche.
Oui.
Et puis, il doit y avoir une conclusion qui ramasse tout ce qu'on a fait dans la thèse, dans le travail, et qui nous fait des ouvertures. Le tout, tout cela doit être précédé par une introduction dans laquelle le problème est posé, les hypothèses sont énoncées, les méthodes et les techniques sont exposées, et tout comme dans la conclusion, on s'attend aussi à voir à quel résultat concret l'étudiant est arrivé.
Voilà. Les questions de préoccupation, composez le 081 890 63 94.
Tous les jours à partir de 9h, l'équipe de Cathy Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaires, l'emploi, le conseil du jour et service plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Au Café Service, l'émission libre au service de la Radio de la Paix.
Au Café Service, l'émission libre et service de la Radio de la Paix. Nous poursuivons, nous parlons de l'élaboration, de la rédaction d'un travail de fin des cycles avec le professeur Célestin Dimanja, le professeur à l'Université catholique du Congo, David Massandi, nous appelle des Kindu. Bonjour David. David, bonjour. David, vous êtes en ligne depuis Kindu, bonjour. Bien, on va retrouver David tout à l'heure. Professeur Célestin, nous avons quelques auditeurs nous ont écrit à partir de la page Facebook du magazine Au Capitaine Service. Sharon Junior Lokonda nous dit ceci: qui fait le travail entre le professeur et l'étudiant? Célestin Dimanja.
Il n'y a pas de doute. C'est l'étudiant qui fait son travail. Le promoteur ne peut pas aller jusqu'à se substituer à l'étudiant. Hein, sinon, ce serait vraiment un très mauvais service. Un très mauvais service d'abord pour l'étudiant, qui n'aura pas eu l'occasion de vérifier ses connaissances, de prouver ce qu'il a appris, de montrer quelles sont les aptitudes qu'il a acquises pendant les années de formation à l'université. Et puis, il peut y avoir des drames au niveau de la défense, lors de la soutenance. Mettez-vous à la place du promoteur qui fait le travail par l'étudiant. Mais s'il y a d'autres collègues qui ont d'autres points de vue et qu'ils arrivent à démolir le travail censé être celui de l'étudiant, mais qui est finalement celui de leurs collègues, vous voyez ce que ça peut susciter comme conflit, comme conflictualité dans ce petit monde que le monde universitaire.
Il faut
vraiment dire que c'est l'étudiant qui doit
faire le travail.
C'est lui qui doit nous montrer ses aptitudes, ses capacités, et ce sont ces capacités-là qui sont jugées. Il ne faut pas que le promoteur se fasse juger par ses collègues.
Étienne Napelembo, vous êtes à Guéména, dans la province de l'Équateur. Bonjour.
Oui, bonjour, Louis Castellan.
Quelle est votre question?
Oui, bon, ma question vient sur la référence bibliographique.
Oui.
Oui, bon, en fait, lorsqu'on était en collège graduat avec l'IRES, on avait eu l'IRES. Bon, ma question revient comme ça. Lorsqu'on est arrivé en G3, on nous a donné un document venu de Kinshasa, rédigé par le professeur Bongoï Tintessa.
Oui.
Il dit, en écrivant le nom sur la note bibliographique, on écrit d'abord le nom propre et le post-nom, on le met entre parenthèses. Bon, ça, je voulais demander à l'invité, c'est quoi? pourquoi le mettre entre parenthèses? Parce que lorsqu'on avait l'IRES, on prenait Gradois, on ne nous avait pas dit ça. On éliminait seulement le nom, le post-prénom, F-virgule, le post-prénom, mais le prénom plutôt, l'initial des prénoms.
Mmh.
Ah. Bon, je voulais demander à l'invité que c'est une nouvelle méthode ou bien.
Bien. Professeur Célestin.
Oui, je comprends sa difficulté.
Oui.
C'est un problème qui s'est posé un peu partout. Et actuellement, les efforts sont fournis au sens, dans le sens de s'en tenir aux conseils et directives de l'UNESCO, qui est l'instance mondiale en matière de sciences, de la culture, de l'écriture, etc. Bon, et qu'est-ce qu'on demande de ce côté-là? Il faut toujours indiquer l'auteur du document. Cet auteur peut être une personne, une institution. Et c'est pour cela que, au lieu de parler tout le temps de l'auteur, l'expression qui est actuellement utilisée, c'est celle de mention de responsabilité. Quelle est la personne humaine, institutionnelle, qui répond du document? Alors, quand il s'agit des êtres humains, dans les notes infrapaginal, il est conseillé de commencer par l'initiale du prénom, la première lettre simplement, suivie d'un point, et puis le nom de famille en lettre capitale, suivi de la virgule, et les autres zones suivent, c'est-à-dire la zone du titre, le titre est toujours souligné, ou bien mis en italique, il peut y avoir un complément de titre, il peut y avoir la collection, la mention de la collection.
Oui.
Il peut y avoir ce qu'on appelle l'adresse bibliographique, qui est toujours composée de trois éléments, la ville d'édition, la maison d'édition, l'année d'édition.
Bien.
Et à la fin, vous avez l'indication de la page, donc la page à laquelle figure l'idée ou le passage cité dans l'original que vous citez.
Bien. Benjamin Candy nous appelle depuis Arriwara, dans la province orientale. Benjamin, bonjour.
Bonjour, journaliste cité à l'invité.
Votre question, Benjamin.
En fait, moi, c'est un peu compliqué. J'ai une question à vous poser. Et la question a été faite la suivante.
Oui.
Cette élaboration de fait de travail de fait de secondaire, c'est fait par rapport les cours d'options ou bien c'est fait par rapport tous les cours possibles.
Vous parlez d'un niveau secondaire?
Oui.
Non, le travail de fin de cycle, c'est à l'université, Benjamin.
En tout cas, j'ai l'excusé.
Excusez-moi.
Oui, avez-vous le professeur Célestin?
Oui. Je voulais vous dire que quand moi je regarde sur Internet les programmes d'enseignement dans d'autres pays, par exemple en Belgique, c'est déjà au niveau de la quatrième année du secondaire que commence l'initiation à la recherche et à la réflexion.
Donc, dans notre pays, c'est pas encore le cas ici.
Oui, ce n'est pas encore le cas, mais j'encouragerais. J'encouragerais parce que il ne faut pas qu'on pense que la recherche s'est réservée uniquement aux universitaires. La recherche peut se faire par les syndicalistes, par les enseignants, par n'importe qui.
Bien, Dani Moulindoua nous a écrit sur notre page Facebook « Comment trouver les questionnaires d'enquête et la problématique ?» Professeur Célestin.
Mais ça dépend de votre sujet. Quand vous avez arrêté le sujet de recherche, vous devez savoir à quoi vous voulez arriver, à quelle question vous voulez répondre, quel est le problème que vous voulez résoudre. On ne fait pas de recherche pour la recherche. C'est toujours pour résoudre un problème ou pour répondre à un certain nombre de questions. Donc, même l'élaboration du questionnaire, ça dépend de la manière dont vous avez conçu votre sujet. Il faut que ce questionnaire concerne l'ensemble des aspects sur lesquels vous voulez récolter les informations qui vous manquent. Donc là, on commence généralement par l'identification de la personne qui va répondre à la question.
Oui.
Et puis, on énumère les différents aspects de sa recherche, en commençant par le plus simple, jusqu'aux questions qui peuvent paraître un peu plus difficiles.
Bien. Jacques Amici nous a également écrit, il dit, quelle est la durée de rédaction d'un travail de fin de cycle?
La durée de rédaction, ça dépend d'une université à l'autre, mais j'aimerais vous signaler par exemple que dans le cadre de l'Université catholique du Congo, la production du mémoire de graduat ou du travail de fin de cycle, comme vous voulez, ça se prépare déjà à partir de la deuxième année. Donc, en deuxième année, les étudiants doivent déposer les sujets sur lesquels ils vont travailler, ils vont produire leur travail, leurs travaux de fin de cycle, l'année suivante. Il en va de même pour la licence. C'est en première licence que l'on commence la réflexion, l'élaboration du projet, en sachant que il faut absolument terminer en deuxième année de la licence. C'est pour cela que dans le projet de thèse tel que je l'évoquais tout à l'heure,
oui,
je ne suis pas arrivé jusque-là, on termine toujours par l'indication d'un calendrier des étapes. C'est-à-dire, vous allez préciser dans votre projet quand la recherche va-t-elle commencer, et puis quand est-ce que vous allez avoir les premiers contacts avec le promoteur.
Oui, mais professeur Dimanja, généralement ça prend combien de temps, un mois, deux mois ou trois mois?
L'élaboration du projet, dans l'élaboration, on prévoit pour le projet lui-même,
oui,
à peu près une semaine à 15 jours. Mais la rédaction, là, ça dépendra de la manière dont vous allez arrêter votre calendrier.
Mm-hmm.
Ça peut vous prendre une semaine, deux semaines, quelques mois. Tout dépend de la manière dont le plan de recherche a été élaboré, puisque quand vous allez voir votre promoteur, ce n'est pas pour parler de la victoire de la Zambie ou d'autre chose. Non. Là, vous devez amener des travaux, des textes en nette progression par rapport aux premiers entretiens.
Oui.
Donc, pour ceux qui suivent cette méthode-là, la rédaction se fait au fur et à mesure que le travail avance.
Mais on a souvent noté quelques problèmes. L'étudiant avance avec son travail, mais le directeur est tout en partie. Il est allé donner cours ailleurs. Il doit attendre. Il dépend de lui. Donc, il doit se soumettre à son programme. Et parfois, ça retarde aussi la rédaction du travail.
C'est un point sur lequel il faut qu'il y ait un contrat plus ou moins explicite entre l'étudiant-chercheur et son promoteur, la fréquence des rencontres. Et quand il y a un calendrier ainsi élaboré, il y a lieu que de part et d'autre, on fasse un effort pour être à la hauteur, pour respecter ces engagements.
Oui. Mais comment expliquez-vous le fait que beaucoup d'étudiants préfèrent s'adonner au plagiat, ils vont à la bibliothèque de l'Institut pour recopier totalement, mot à mot, certains documents trouvés dans les tertiaires qui ont été produits antérieurement?
Je crois que ceux qui le font n'ont pas été suffisamment initiés ni à la recherche, ni aux études en tant que telles. Puisque déjà, même pour les examens, il n'est pas demandé à l'étudiant de répéter comme un perroquet, mot à mot, ce qu'on lui a appris.
Oui.
Une des qualités de l'enseignement universitaire, c'est de vous apprendre à faire l'analyse, à faire la synthèse, et surtout à réinterpréter, c'est-à-dire à reformuler dans vos propres mots les idées qui vous ont été enseignées ou les idées que vous avez lues.
Bien. Dany Moulindoua, il nous pose une autre question. Comment pouvons-nous noter la référence bibliographique dans un tertiaire? Je crois que vous avez déjà répondu à la question. Et quelle est la place de la table des matières?
La table des matières, c'est en fait le plan définitif. Hein, le plan tel qu'il doit figurer avec tous les détails dans votre travail. Avec un renvoi aux pages auxquelles les différentes sections commencent. C'est ça la table de matière.
Mmh.
En fait, c'est la transformation en format définitif du plan que vous avez, avec lequel vous avez commencé déjà dans le projet de recherche.
Professeur Célestin Dimanja, merci. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je me rappelle que vous êtes un professeur à l'Université catholique du Congo. On aura peut-être l'occasion de nous entretenir prochainement. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et bon début à des semaines.
C'est moi qui vous remercie.